Et ravi de vous recevoir, Corinne Yaya. Vous êtes présidente de l'association AG33, Astronomie Gironde 33. Bonjour Corinne, bienvenue.
Bonjour.
Alors là, on va déjà souhaiter la bienvenue également à Michel, bien sûr. Michel, bonjour.
Bonjour Joël.
Voilà, et juste Corinne, on va écouter la chronique à Michel. Vous intervenez si vous voulez, mais là, vaut mieux le laisser s'exprimer. Voilà, puis après, on reviendra vers vous parce que parmi l'actu, bien sûr, les nuits des étoiles, et c'est bien nos pluriel, et bien sûr. Alors, Michel, chronique astro numéro 89. Voilà, et tout de suite, vous allez nous parler d'actualité dans un premier temps, et notamment faudrait prononcer l'acronyme en anglais, JWST, dans le James Webb Space Telescope, et nous donner quelques infos, et notamment nous parler des premières images de ce télescope.
Oui, depuis son lancement le 25 décembre dernier, nous suivions le feuilleton, si je peux dire, de la mise en service du JWST, ou James Webb Space Telescope, le nouveau télescope spatial de la NASA. Et j'avais annoncé début juillet qu'après un dernier petit pépin, le choc d'une micrométéorite sur un des segments hexagonaux de son miroir, obligeant à recommencer certains réglages, on attendait les premières images scientifiques pour le 12 juillet. Et la NASA était exacte au rendez-vous, car nos auditeurs ont sans doute entendu et vu dans les médias la publication en grande pompe de la toute première image, présentée même par Joe Biden, le président américain lui-même, avec un jour d'avance, le lundi 11 au soir. Puis le lendemain, la NASA a rendu public une autre série d'images pour illustrer les qualités du télescope et de ses instruments, qui vont au-delà des prévisions, et c'est une très bonne nouvelle pour tous les astronomes qui souhaitent utiliser le JWST pour leurs recherches. Ce qu'on peut dire concernant ces photos, c'est que la NASA a sans doute voulu démontrer les capacités de l'instrument dans les différents domaines dans lesquels on attend sa contribution, et je vais les détailler rapidement, mais avant, il faut préciser quelques points à propos de ces photos. Tout d'abord, le JWST observe dans l'infrarouge, c'est-à-dire dans des longueurs d'onde invisibles pour nos yeux. Et ces caméras fournissent des images en noir et blanc, dans différentes gammes qu'on nomme infrarouge proche, c'est-à-dire pas très éloigné du rouge visible à nos yeux, soit en anglais near infrared, d'où le nom NIR, N-I-R, des instruments de ce type comme la caméra NIRCam, ou de l'infrarouge moyen, c'est-à-dire plus éloigné du rouge visible mais pas autant que l'infrarouge lointain, en anglais « medium infrared », d'où le nom MIR, M-I-R, des instruments correspondants comme la caméra MIRCam. Si les photos publiées sont en couleur, c'est que la NASA a voulu fournir au public de belles images ressemblant un peu à celles du télescope Hubble, qui lui observe bien dans la gamme du spectre visible à nos yeux. Et pour cela, elles ont été colorisées artificiellement en mettant du bleu ou vert pour l'infrarouge proche et du rouge pour l'infrarouge plus lointain, ce qui fait que les galaxies les plus lointaines, par exemple, ressortent en orangé ou en rouge. Mais il faut bien comprendre que ces couleurs n'ont aucun rapport avec la réalité de ce que nos yeux pourraient voir, ou plutôt ne pourraient pas voir, car l'infrarouge leur est totalement invisible. Le deuxième point important à comprendre, c'est que si les photos sont plus spectaculaires et plus parlantes pour le public, ce sont aussi les spectres, c'est-à-dire l'analyse de la lumière reçue en la décomposant dans toutes ses longueurs d'onde, un peu comme un arc-en-ciel, qui sont attendus par les scientifiques, car porteurs de beaucoup d'informations sur les objets étudiés, comme leur température, leur composition chimique, la vitesse à laquelle ils s'éloignent ou se rapprochent de nous, etc. Et bien entendu, la combinaison des images et des spectres, donc la caractérisation de multiples objets visibles dans le champ, permet une meilleure compréhension de ce que le télescope capture. Par exemple, NIRSPEC peut réaliser simultanément environ 150 spectres d'objets présents dans le champ de l'image.
Alors, mais quelles sont ces premières images, Michel, publiées par la NASA, et comment illustrent-elles les différents domaines d'utilisation du JWST?
La toute première est ce qu'on appelle un champ profond, c'est-à-dire la photographie d'une toute petite portion de l'espace. On parle ici de l'équivalent d'un grain de sable tenu entre nos doigts à bras tendus, mais avec un temps de pose très long pour bien révéler les objets les moins brillants, donc les plus éloignés de nous. D'où l'appellation de champ profond, deep field en anglais, car on cherche à voir loin en profondeur. Et je rappelle qu'en astronomie, loin veut dire aussi loin dans le temps. Donc on essaie d'observer des objets très anciens, des galaxies en l'occurrence, formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, qui remonte lui à presque 14 milliards d'années. Donc on essaie de tirer le portrait de l'univers dans sa jeunesse, et c'est justement l'une des principales missions assignées au JWST quand il a été conçu dans les années 1990. Cette première photo montre donc un champ rempli de galaxies, dont certaines très anciennes. S'ils ne l'ont pas encore vu, j'invite nos auditeurs à aller la voir sur le site de l'APOD, Astronomy Picture of the Day, où elle a été publiée le 13 juillet. Comme son nom l'indique, la pod publie une image d'astronomie chaque jour. Si on la regarde attentivement, on peut y distinguer trois types d'objets. Au plus près de nous, quelques étoiles présentes dans le champ et bien reconnaissables à leurs aigrettes, des petites pointes lumineuses dues à l'optique du télescope. Puis des grosses, si je peux dire, galaxies plutôt blanches dans la colorisation choisie par la NASA et qui font partie d'un amas baptisé SMAX 0723, situé à environ 4,5 milliards d'années de lumière de nous. Et enfin, des petites galaxies teintées en orange et rouge pour bien illustrer le fait que leur lumière est décalée fortement dans le rouge, et même en réalité dans l'infrarouge, ce qui veut dire qu'elles semblent s'éloigner très vite de nous, ce qui signifie, avec la loi de Hubble sur l'expansion de l'univers, qu'elles sont situées très loin de nous. Pour l'une d'elles, les données fournies par les spectres permettent d'estimer qu'elle est à 9,5 milliards d'années-lumière de nous, soit deux fois plus loin que l'amas. Et si elles sont aussi bien visibles sur l'image, c'est-à-dire assez lumineuse pour être photographiée par le JWST, c'est justement à cause de la masse de l'amas de galaxies située entre nous et elle, qui agit comme une loupe permettant de mieux les voir. C'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle, prévue par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale, et dont nous avons déjà parlé ici. Et ce phénomène est bien visible sur la photo, car certaines de ces galaxies sont complètement déformées sous forme d'arcs allongés, et on sait même par les spectres que certaines galaxies apparaissent plusieurs fois sur l'image, un peu comme si cet arrière-plan galactique était vu dans un miroir déformant. Avec les nombreuses galaxies présentes, la finesse de la photographie et la richesse des données fournies par les spectres, cette première image est donc la preuve des capacités du JWST à explorer l'univers lointain, donc jeune, pour nous aider à mieux comprendre son évolution à l'époque de la formation des premières étoiles et galaxies.
Et que dire des autres images du JWST publiées par la NASA le lendemain ?
Alors pour ne pas être trop long et avoir le temps de parler des nuits des étoiles, je ne détaillerai pas autant leur contenu, mais elles illustrent les autres domaines d'utilisation du JWST. On peut les voir sur un site de la NASA dédié aux images du JWST. Comme il observe dans l'infrarouge, il peut révéler ce qui se passe derrière ou dans les nuages de poussière qui sont opaques à la lumière visible, donc la naissance des étoiles qui se déroulent dans des sortes de cocons de gaz et de poussière. C'est illustré par l'image d'une partie de la nébuleuse Eta Carina qui a été publiée, région de l'espace où de nombreuses étoiles nouvelles sont en cours de formation. C'était aussi une des missions initiales du JWST à sa conception. Une mission très différente est apparue pendant la gestation du projet, car c'est en 1995 qu'a été découverte la première exoplanète, c'est-à-dire une planète orbitant autour d'une autre étoile que le Soleil. Et donc on a ajouté en cours de route l'étude des exoplanètes à la mission du JWST, domaine dans lequel il est qualifié en raison de sa taille, avec son miroir primaire de 6,50 m de diamètre, presque trois fois celui de Hubble. En effet, quand une exoplanète transite, c'est-à-dire qu'elle passe entre son étoile et nous, une partie de la lumière de son étoile traverse l'atmosphère de la planète, si elle en possède une. Mais pour pouvoir faire la différence entre le spectre pendant le transit et le spectre habituel de l'étoile, il faut récolter énormément de lumière, donc posséder un grand miroir. Une image du JWST publiée par la NASA est justement un spectre de l'atmosphère de l'exoplanète WASP-96b, découverte en 2014, et qui passe devant son étoile à peu près tous les 3 jours et demi. On y voit nettement les preuves de présence de vapeur d'eau. Il s'agit juste d'une démonstration des capacités du JWST, car cette exoplanète est une géante comme Jupiter. Alors que ce qui intéresse surtout les astronomes, c'est de réaliser les spectres d'atmosphère de planètes plus petites, analogues à la Terre, en espérant y découvrir les marqueurs d'une vie possible, comme l'eau ou l'oxygène. Pour en revenir aux galaxies, la NASA a aussi publié une image d'un groupe bien plus proche de nous, à seulement, si je peux dire, 290 millions d'années-lumière, le quintet de Stefan. 5 galaxies en interaction. Avec sa grande taille et ses capteurs infrarouges, le JWST révèle des détails jamais vus auparavant qui permettront de mieux comprendre les mécanismes en œuvre dans de telles rencontres cosmiques. Les queues de gaz froid éjectées parfois très loin des galaxies ou les vagues de création de jeunes étoiles par effet de marée gravitationnelle. Une autre image publiée est une petite nébuleuse planétaire de l'hémisphère sud ressemblant à un grand anneau en expansion, phase ultime de la mort d'une étoile comme notre Soleil. Comme pour les étoiles en train de naître, les caméras infrarouges du JWST révèlent ce qui se passe au cœur en montrant au travers des poussières, qui le cachent dans le domaine visible, la petite naine blanche, une étoile très petite mais très chaude qui est au cœur de ce phénomène. Enfin, le JWST pourra aussi produire des images des corps du système solaire dans le domaine infrarouge, ce qui est impossible à réaliser avec des télescopes au sol car notre atmosphère ne laisse pas passer la plupart des infrarouges, et qu'on n'a pas pu faire avec les sondes envoyées vers les planètes car rarement équipées en télescope infrarouge. À ce titre, la NASA a publié une photo de Jupiter en infrarouge, ce qui permet entre autres de révéler le tout petit anneau qui entoure la planète géante, et les scientifiques ont déjà remarqué sur ce cliché des détails dans l'atmosphère jovienne qui n'avaient pas encore été vus auparavant. Comme on le voit, les premières images du JWST balaient pratiquement tous les domaines où on compte l'exploiter pendant les années de sa mission pour montrer ses performances dans tous ses compartiments de la recherche en astronomie. Le Big Bang, la naissance et l'évolution des étoiles et galaxies, les exoplanètes et le système solaire.
Alors Michel, vous allez nous parler de nouveaux soucis à propos de la participation de la Russie à l'ISS, la Station Spatiale Internationale.
En effet, nos auditeurs se souviennent peut-être des propos tenus par Dmitri Rogozin, directeur général de l'agence spatiale russe Roscosmos, au tout début de l'invasion russe en Ukraine, menaçant de ne plus assurer avec les vaisseaux cargo de ravitaillement russe Progress la remontée de l'orbite de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, au risque de la voir finir par retomber sur Terre de manière incontrôlée. En fait, il n'y avait aucun risque réel à court terme, mais ces menaces étaient plutôt une forme de provocation exprimée par ce proche de Poutine. Dans les semaines qui ont suivi, la situation semblait apaisée pour ce qui concernait l'ISS, contrairement à d'autres coopérations, notamment avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, où des missions reposant sur des lanceurs russes ou des modules russes se voyaient gravement perturbées, notamment la mission spatiale ExoMars 2022, qui ne pourra pas être lancée en fin d'année et se trouve reportée d'au moins 2 ans. À bord de l'ISS, la coopération internationale semblait se poursuivre normalement et on a même vu fin mars l'astronaute américain Mark Van de Heij redescendre de l'ISS à bord d'un Soyouz russe, comme prévu, et avec ses 2 collègues russes et atterrir au Kazakhstan. Mais les annonces de ces dernières semaines ont de quoi nous laisser perplexes sur la poursuite d'une certaine bonne entente autour de l'ISS. Mi-juillet, le 15 exactement, un décret de Poutine officialisait le remplacement à la tête de Roscosmos de Dmitri Rogozin par l'ancien vice-premier ministre Yuri Borisov, ce qu'on pouvait interpréter comme un signe d'assouplissement de la position russe dans le domaine de la coopération spatiale. D'ailleurs, le même jour, les 2 agences spatiales, la russe Roscosmos et la NASA américaine, annonçaient la reprise des équipages mixtes dès la rentrée. Le 21 septembre, avec 2 Russes et 1 Américain à bord d'un Soyouz, et le mois suivant, 1 Russe avec 2 Américains et 1 Japonais à bord d'une capsule américaine Crew Dragon. Et patatras, 10 jours plus tard, le 26 juillet, le nouveau directeur de Roscosmos annonçait que l'agence russe arrêtera sa participation à l'ISS après 2024, ce qui est actuellement la fin officielle de la mission ISS, mais que la NASA s'emploie à poursuivre jusqu'en 2030. Borisov annonce vouloir consacrer le budget de l'agence russe en priorité à un projet de station spatiale russe, donc revenir un peu à la situation qui existait dans les années 1980-90 avec la station spatiale russe Mir. Selon les spécialistes, ce projet reste douteux, car les moyens nécessaires ne semblent pas apportés du secteur spatial russe mis en difficulté par une économie plutôt médiocre, comme le reconnaît Borisov dans ses déclarations. À titre d'illustration, le projet ISS est estimé aujourd'hui à un budget de plus de 100 milliards de dollars. Cette annonce ressemble donc encore à une menace gratuite dans le contexte de tensions internationales produites par l'agression russe en Ukraine, d'autant que la NASA ne semble pas avoir été officiellement informée de cette décision du retrait russe.
Alors quelles seraient justement les conséquences de cet arrêt de la coopération russe pour l'ISS ?
Alors comme évoqué au début de la crise ukrainienne en février, la question n'est plus l'accès à l'ISS à bord des vaisseaux Soyouz, puisque maintenant les capsules américaines Crew Dragon peuvent transporter les astronautes jusqu'à la station et les ramener sur Terre. Mais c'est le maintien en orbite qui pose problème. Avec son orbite basse à environ 400 km d'altitude, l'ISS frotte, si je peux dire, sur les très hautes couches de l'atmosphère, et même si l'air y est très peu dense, cela provoque un petit freinage qui fait descendre l'orbite très doucement, au rythme moyen de 2 km perdus par mois. Donc de temps en temps, il faut exercer une poussée pour remonter cette structure de 450 tonnes de quelques dizaines de kilomètres. La station possède ses propres moteurs pour le faire, mais dans le module russe Zvezda. Et en général, on ne les utilise pas, préférant mettre à contribution les vaisseaux de ravitaillement russes Progress, qui ont une réserve de carburant importante lors de leur mission de ravitaillement. Pour ces opérations, ils s'amarrent à l'ISS par le compartiment d'amarrage russe Razvet. C'est pour cela qu'il est difficile à la NASA d'envisager de confier ses missions aux vaisseaux cargo américains Cygnus ou Dragon, car eux se connectent à un module non russe. Or, le système de contrôle de vol de la station fonctionne sur des ordinateurs russes du module Zvezda. Au cas où le problème viendra se poser, la NASA semble néanmoins se préparer à remonter l'ISS sans l'aide des Russes. En effet, lors de la dernière opération de ravitaillement réalisée par un vaisseau cargo Cygnus, fin juin, un test a été effectué en rallumant 5 minutes son moteur pendant qu'il était encore arrimé, remontant l'orbite de quelques centaines de mètres. On voit donc qu'il existe sans doute des solutions possibles pour pallier le retrait des Russes, qui n'a rien de certain à ce stade, car des juristes font valoir que la coopération pour l'ISS se fait dans le cadre d'un accord international et que de longues négociations seraient nécessaires avant de pouvoir s'en retirer. À propos de l'ISS, il y a aussi des actualités plus réjouissantes, puisque le 21 juillet, l'astronaute italienne de l'ESA, Samantha Cristoforetti, a revêtu une combinaison russe Orlan pour sortir de l'ISS pendant plus de 7 heures, afin de travailler avec son collègue russe Oleg Artemiev, actuel commandant de l'ISS, pour travailler sur le bras robot européen et lancer à la main quelques microsatellites CubeSat. C'est un événement historique, car la première sortie extravéhiculaire réalisée par une Européenne. Et concernant les stations spatiales hors de la coopération internationale, il ne faut pas oublier la Chine, qui construit sa propre station, baptisée CSS, hein, tout simplement la station spatiale chinoise, la troisième après Tianhong 1 et 2. En avril 2021, je vous avais relaté la mise en orbite de son premier élément, un module de 22 tonnes, long de 16 mètres et de 4,20 mètres de diamètre, baptisé Tianhe, hein, je ne garantis pas la prononciation du chinois, c'est-à-dire Harmonie Céleste. Il y a une dizaine de jours, le dimanche 24 juillet, c'est de nouveau une fusée Longue Marche 5 qui a mis en orbite un deuxième module baptisé Wentian, soit Quête des Cieux, d'une longueur de 18 mètres et d'une masse de 23 tonnes. A priori destiné à des expériences scientifiques, même si l'agence chinoise ne divulgue pas beaucoup de détails sur ses missions. Pour compléter la station chinoise, un troisième module, baptisé Meng Tian, ou Rêve des Cieux, lui aussi pour des expériences, devrait être lancé d'ici la fin de l'année et se connecter à son tour au module central Tianhe, donnant à la station une forme générale en T. La mise en orbite de Wentian aura été l'occasion de se faire une petite frayeur dans les médias la semaine dernière, car comme en avril 2021, l'unique étage de la fusée qui avait accompagné le module en orbite devait retomber sur Terre les jours suivants. Et il semble que cette redescente était réalisée de manière incontrôlée, ou au moins que l'agence spatiale chinoise n'avait pas fourni d'informations sur sa trajectoire selon l'US Space Command, le commandement spatial des États-Unis. Donc pendant quelques jours, on s'est inquiété de savoir où pourrait retomber cet élément de plus de 30 mètres de long et d'une masse à vide d'environ 22 tonnes, dont les spécialistes estimaient que malgré sa désintégration partielle lors de sa rentrée atmosphérique, environ 5 à 9 tonnes pouvaient retomber au sol, notamment des éléments massifs comme les moteurs. La France n'était pas concernée par cette éventuelle menace, car la chute prévue dimanche matin, avec une très grosse marge d'erreur, devait se produire entre les latitudes 41 degrés nord et sud, zone survolée par le débris en orbite. Finalement, c'est dès samedi soir, vers 18h45 heure française, que l'étage de fusée s'est désintégré au-dessus de l'océan Indien, des débris incandescents ayant pu être vus dans l'espace aérien malaisien avant de tomber dans l'océan du côté de l'île de Bornéo. Pour nos auditeurs qui s'intéresseraient à cette question des débris spatiaux et des règles internationales assez insuffisantes qui les régissent, je rappelle que c'était le thème que j'avais traité en novembre dernier, après avoir assisté à une conférence sur ce sujet aux rencontres du ciel et de l'espace. Cette chronique, comme toutes les autres depuis la première, en septembre 2014, est disponible à la réécoute sur notre site web www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org, rubrique astronomie, chronique audio radio.
Allez, on est toujours en direct, c'est la chronique astro de Michel Favret en ce mercredi 3 août sur Audio Radio. Et là, Michel, vous allez nous parler du ciel du mois.
Oui, alors habituellement, ça vient à la fin de la chronique, mais au lieu de terminer la chronique avec elle, comme d'habitude, j'aborde cette rubrique plus tôt, puisqu'elle permet d'évoquer les observations possibles lors des Nuits des Étoiles, dont nous parlerons juste après. Comme chaque mois, je renvoie les auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web, donc je répète www.constellationsetgalaxies.org, pour avoir les cartes du ciel correspondantes, hein, difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour le mois d'août, dès cet après-midi. L'été n'est pas vraiment la période la plus favorable pour observer le ciel, avec des nuits très courtes et surtout qui commencent très tard. En ce moment, le soleil se couche vers 21h30 et la nuit arrive seulement vers 22h30, et même 23h30 si on attend un ciel bien noir. À la fin août, le coucher sera vers 20h45 et la nuit vers 21h45. Comme nous sommes au cœur de l'été, en tout début de nuit, ce sont les constellations typiques de la saison qui occupent la plus grande partie du ciel, vers le sud, et celles de l'automne qui commencent à pointer vers l'est. La voûte étoilée est dominée par la figure caractéristique du triangle de l'été, formé par trois étoiles brillantes qui sont visibles dès le crépuscule et permettent facilement de situer les trois constellations auxquelles elles appartiennent. Vega, de la Lyre, la plus brillante et la plus haute, presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes. Altaïr, de l'Aigle, nettement plus basse au sud-est. Et enfin Deneb, du Cygne, la plus à l'est des trois. Dans un ciel bien noir, loin de la pollution lumineuse de nos éclairages, on peut facilement distinguer le ruban laiteux de la Voie lactée, notre galaxie, qui descend le long de, qui parcourt le Cygne et le prolonge, tandis que l'autre descend le long de l'Aigle et devient très lumineux en approchant du Sagittaire, constellation reconnaissable à sa figure ressemblant à une théière, proche de l'horizon sud, juste à côté du Scorpion. À l'est, c'est la constellation typique de l'automne Pégase qui se lève, accompagnée d'Andromède, dans laquelle les astronomes ne manquent jamais d'observer la grande galaxie la plus proche de nous, à quand même 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu dans le ciel. Mais son observation est bien plus intéressante dans un télescope, comme ceux que les astronomes vous prêteront pendant les nuits des étoiles. Un spectacle à ne pas rater. Fin août, tout cela sera décalé vers l'ouest, avec en début de nuit le triangle de l'été plein sud et Pégase levé bien plus haut. Côté planète, on n'est pas gâté en début de soirée pour les nuits des étoiles, car si la première à se montrer, Saturne, se lève vers 22h en ce moment, pour l'observer dans des conditions pas trop mauvaises, c'est-à-dire sans que sa lumière ne traverse une couche d'air trop épaisse dans notre atmosphère, il faudra la laisser monter un peu dans le ciel, par exemple jusqu'à 23h30 où elle atteindra les 15 degrés de hauteur et qu'on pourra admirer ses anneaux avec une meilleure stabilité de l'image. Je doute que beaucoup de participants patientent jusqu'à la voir au plus haut de son trajet apparent dans le ciel, c'est-à-dire plein sud, ce qu'elle n'atteindra que vers 3h du matin. Pour Jupiter, la deuxième à se montrer, les horaires sont bien plus tardifs, puisqu'elle ne se lève que vers 23h30 et qu'il faudra patienter jusqu'à 1h du matin pour qu'elle atteigne les 15 degrés de hauteur. Quant à Mars, il vaut mieux l'oublier pour cette fois, car il ne se lève que vers 1h et reste encore assez petit dans le ciel. On l'observera plutôt cet automne, quand on s'approchera de sa prochaine opposition, moment où elle sera au plus proche de la Terre, début décembre. Bien entendu, tous ces horaires auront avancé à la fin du mois, avec Saturne se levant dès 20h, donc observable dans d'assez bonnes conditions en début de nuit, et passant au plus haut, plein sud, à 1h du matin. Jupiter se levant vers 21h30, donc observable dès 23h, et Mars se levant vers minuit. En août, Vénus est visible seulement dans les lueurs de l'aube, et Mercure n'est pas observable. Comme chaque mois, la Lune s'approchera de ses planètes dans le ciel. Le jeudi 11 août, la pleine Lune sera près de Saturne, environ la largeur de 3 doigts bras tendus. Le dimanche 14 août, la grosse Lune gibbeuse sera assez proche de Jupiter. Le vendredi 19, alors en fait, c'est dans la nuit du jeudi 18, mais après pas minuit. Et le lendemain, le premier quartier s'approchera de Mars. Et enfin, le vendredi 26 au matin, un très très fin croissant, à peine visible, se lèvera avec Vénus dans les lueurs de l'aube. À propos de la Lune et des nuits des étoiles, on aura cette année une Lune plutôt grosse pour les observations du ciel, puisque ce sera déjà le premier quartier vendredi et qu'elle ne se couchera que vers 1h du matin. Elle sera encore plus grosse et se couchera encore plus tard, samedi et dimanche. La présence d'une grosse Lune en soirée est à double tranchant pour les nuits des étoiles. Côté positif, cela permet aux participants de pouvoir observer ses reliefs au télescope, ce qui est toujours un spectacle apprécié du public. Mais le revers, c'est que la clarté lunaire, rendant le fond de ciel un peu laiteux, gêne un peu l'observation des autres objets du ciel, ce qu'on appelle le ciel profond, les amas d'étoiles, nébuleuses et galaxies, qui se révèlent bien mieux sur un fond de ciel bien noir. Ce sera notamment le cas aussi pour la petite comète du moment qu'on pourrait observer en début de nuit et qui sera malheureusement pas très loin de la Lune dans le ciel, surtout samedi. Pas de chance avec l'ISS qu'on ne verra pas passer, car son dernier passage en soirée était lundi, et c'est maintenant le matin qu'on peut la voir traverser le ciel.
Allez, toujours avec Michel Favré pour sa chronique astro. Et là, vous l'avez bien compris, sur la troisième partie, dernière partie de la chronique, vous allez aborder, concernant l'actu, les nuits des étoiles, bien sûr, 2022.
Oui, alors un petit rappel historique. Hein. Tout le monde connaît probablement cette manifestation nationale très populaire qui existe depuis 1991 à l'initiative de l'AFA, l'Association Française d'Astronomie, fédération regroupant la plupart des clubs d'astronomie en France. Les plus anciens se souviennent peut-être des premières éditions qui donnaient lieu à toute une soirée d'astronomie sur Antenne 2 à l'époque, avec des intervenants prestigieux comme par exemple Hubert Reeves. Cette période dorée est bien révolue puisque France Télévisions a cessé son partenariat en 2003. Il y aura tout de même une journée spéciale dédiée aux Nuits des Étoiles sur Arte le samedi, avec des documentaires sur des thèmes concernant l'espace. Mais bien sûr, pour ceux de la soirée, je conseille plutôt de les enregistrer ou de les regarder ultérieurement en replay, comme on dit en bon français, sur le site de la chaîne, et de plutôt sortir vers un des sites où seront proposées les observations du ciel. Malgré les aléas de ces dernières années en raison de la crise sanitaire du Covid, elles doivent retrouver leur ambiance habituelle cette année, 32e édition, programmée à la fin de cette semaine du vendredi 5 au dimanche 7 août. En raison de la présence d'une grosse lune, mais surtout parce que la reprise des missions humaines vers la Lune doit connaître très prochainement une étape majeure avec le lancement d'Artemis 1, la première mission du programme Artemis de la NASA, qui doit propulser une capsule Orion sans équipage jusqu'à l'orbite de la Lune, puis la ramener sur Terre, peut-être dès fin août. L'AFA a choisi cette thématique du retour des hommes sur la Lune, mais les organisateurs restent libres du contenu de leurs animations. Pour avoir le détail des manifestations, les dates et les lieux, le mieux est de consulter le site en ligne de l'AFA, afastronomie.fr, puis le choix Nuit des étoiles dans le menu événements. On y trouve une carte indiquant les animations qui auront lieu partout en France. Selon les chiffres fournis par l'AFA, il y aurait plus de 500 manifestations inscrites à l'initiative de plus de 300 clubs et autres structures. Donc on le voit, une opération massive sur l'ensemble de la France. Et pour ce qui concerne la Gironde et surtout la région bordelaise, nous allons parler maintenant plus en détail.
Voilà, déjà merci Michel pour cette chronique. Et voilà, donc on rappelle, Corinne est avec nous, Corinne Yaya, présidente de l'association AG33. Alors les Nuits des Étoiles, bien sûr Corinne, ça c'est un rendez-vous incontournable, il y en a d'autres. Mais ça c'est vraiment, voilà, c'est au cœur de l'été, on va pas revenir en arrière sur les tristes périodes suite à la conjoncture, eh bien, oui, Covid, etc. Donc là, non. Donc voilà, donc dans les grandes lignes, et puis après, n'hésitez pas à rentrer dans le détail. Donc à votre club, tout le monde sera mobilisé. Hein. Enfin, oui, ceux qui ne sont pas partis en vacances.
Mais en fait, même la plupart des adhérents ne partent pas en vacances.
Bon, spécialement pour être présent.
Spécialement pour être présent au mois d'août. En tout cas, sur le premier week-end, qui est toujours le week-end choisi par la FAP pour les Nuits des Étoiles. Donc, nous, les années précédentes, nous avons fait la Nuit des Étoiles. Certes, il y avait des restrictions, il y avait le pass sanitaire.
C'est vrai que là, on
va revenir donc à des entrées beaucoup plus libres. Et donc, ce sera quand même plus sympathique pour le public, ça c'est sûr.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que je sais que vous êtes présente sur plusieurs spots, hein, comme on dit. Là, je vais vous parler de Phare Saint-Hilaire un petit peu plus tard, vous serez présente.
Oui, nous allons.
Donc là, de manière, alors, on va rappeler qu'il y a le site de l'AFA, bien sûr, mais à G33, vous avez également un joli site, hein, qui est vraiment bien détaillé, lumineux, avec les bonnes infos à G33.fr. Alors, de manière chronologique, où c'est que vous serez présente avec les autres adhérents, bien sûr, de l'association, et de quelle manière?
On va d'abord parler du premier week-end, hein, le plus important, c'est donc vendredi 5, on sera aux côtés de Cap Science, à côté Science, Air et Espace, à Mérignac.
À Mérignac, oui, tout à fait.
Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Hein, à part, vous avez
on en a parlé avec
Blandine,
et puis Clément et Maë sont allés même à Cap Science. Voilà. Donc côté Science, Air et Espace, c'est vrai qu'il y a tout un programme, mais vous pouvez présenter, vous, comment vous allez vous inscrire sur cette...
Parce
qu'il y a plusieurs rendez-vous, conférences, ateliers, observations, bien sûr.
Non, justement, là, on va laisser beaucoup de place à Cap Science. On va juste s'occuper de la partie observation. Et bon, d'habitude, je fais aussi du planétarium à ciel ouvert, mais à Mérignac, j'ai un petit doute sur ce qu'on peut voir en étoile. Donc, je vais plutôt réserver ça au lendemain, où nous allons nous expatrier sous un ciel un peu plus noir, du côté de Saint-Vivien-de-Blaye. Je sais que ça peut faire beau, pas assez loin pour la plupart de vos auditeurs, mais bon, quand on aime, on compte pas, hein. Donc, Saint-Vivien-de-Blaye, c'est un tout petit bourg, il y a juste la mairie et l'église, et on va s'installer juste en face. Et là, effectivement, deux membres du club, dont moi, vont présenter des conférences, dont une sur la Lune et l'autre sur la biographie d'une étoile dans le ciel d'été. Toujours pareil, les observations au télescope et lunettes. Et je ferai du planétarium à ciel ouvert, parce que là-bas, les conditions se prêtent bien à ça. Les gens n'ont plus qu'à tirer une couverture, s'allonger dessus et m'écouter parler.
Ça, c'est les bons conseils en même temps. Hein.
D'ailleurs, pour ces nuits, je conseille à ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont quand même sous un ciel noir de le faire pour chercher quelques filantes, hein, les étoiles filantes. Nous sommes sortis le week-end dernier à Socat, au mémorial de la ferme de Richemont, où nous invitons toujours le public à nous rejoindre. Et nous avons été bien alimentés sur les étoiles filantes. Hein. Nous avions deux essaims, on était au pic de deux essaims d'étoiles filantes, et les perséides qui commençaient à faire leur show. Donc on a été bien gâtés.
Bon, et pour quelqu'un qui est un féru d'astronomie, voilà, ce sont des beaux moments. Hein.
Mm-hmm,
voilà,
tout à fait.
Rien que quand vous en parlez là, et puis là, bon, on est en studio, en radio. Voilà.
Il y a les étoiles qui s'allument dans les yeux.
Oui, complétez, Michel, bien sûr.
Et bon, le dernier soir, ce sera dimanche, mais bon, je ne vais pas trop en parler parce que, en fait, c'est déjà complet.
Bon.
C'est le fameux écomusée de Marquez dans les Landes, où on arrive par le petit train sur l'écomusée.
Oui, on a tous vécu ça hein, en milieu scolaire,
voilà.
Donc
et
c'est
là,
complet, bien sûr.
On m'a averti que c'était complet, bon. Donc ne cherchez pas à les appeler. Peut-être pour l'année prochaine, mais pas pour cette année.
Voilà, et c'est tant mieux, j'allais dire, hein, parce que c'est vrai que c'est un lieu quand même, question de jauge, d'accueil.
Ah, oui, oui.
Voilà, donc tant mieux si jamais des événements peuvent rencontrer leur public, donc c'est sympa. Donc ça fait un joli week-end, hein, Corinne. Hein.
Voilà.
Mais c'est pas fini, je crois. Hein.
Non.
Là, après, Michel, oui, si vous voulez intervenir,
oui,
n'hésitez
parce
pas
que
même à nous donner des infos.
AG33, comme je l'ai dit tout à l'heure, hors antenne, AG33 fait le mois des étoiles, hein, parce qu'il y a d'autres animations au mois d'août labellisées Nuit des étoiles. Et pour éviter peut-être la confusion, je voudrais juste indiquer d'autres animations qui ont lieu ce week-end, qui est quand même le week-end principal, hein, du 5 au 7.
Bien sûr.
Parce que malheureusement, les autres associations qu'on avait invitées à nous rejoindre en studio n'étaient pas disponibles.
Voilà, mais ça, c'est pas grave, hein, chacun,
donc,
bien
il
sûr.
Donc, il y a Jal Astronomie. Hein, ils proposeront au public d'observer le ciel à Saint-Médard-en-Jal le vendredi 5 à partir de 21h sur le site de la Plaine des Sports des Biges. Il y aura aussi des animations sur les insectes nocturnes et les chauves-souris par l'association Icocide du Bourgail et la projection du film Les Constellations nous racontent. Le lendemain, samedi 6, ils seront à Martignas, en Jal, au Parc des Sports et Loisirs Colette-Besson, dès 14h30 pour l'observation du soleil et des ateliers destinés aux enfants autour des fusées et des cadrans solaires. L'observation du ciel nocturne commencera à 21h et comme la veille, il y aura des animations de l'Écocide du Bourgail et la projection du film. Et ils remettront ça le dimanche 7, car comme AG33, ils font la totale des dates prévues par l'AFA, à l'Écocide du Bourgail à partir de 14h pour les animations enfants et le soir à partir de 21h pour les observations du ciel. Il y a plus de détails sur le site web de l'Écocide. De son côté, l'association Vega de la Lyre accueillera le public à l'observatoire de Vert le samedi 6 de 14h à 2h30 du matin. Dans la journée, ce sera l'observation du soleil, alors bien sûr, hein, comme pour Jal, avec des instruments spécialement équipés pour le faire sans danger. À partir du coucher du soleil, observation du ciel nocturne au fur et à mesure de l'assombrissement puis de l'arrivée des planètes, avec le télescope de la coupole de l'observatoire, mais aussi d'autres télescopes disposés sur le pré. Pendant toute la manifestation, une buvette sera proposée avec même des sandwichs. Parce que je confirme, quand on reste tard dans la nuit, on a un petit peu faim parfois. En dehors de ces clubs d'astronomie que nous invitons habituellement à venir parler de leurs animations à l'antenne d'O2 Radio, je suis allé consulter les autres manifestations Nuit des Étoiles inscrites sur la carte de l'AFA et j'ai vu qu'il y en avait une autre à la Maison de la Nature de Gradignan, vendredi à partir de 21h30, et plus loin de l'agglomération bordelaise, une soirée aussi le vendredi 5 à l'aérodrome de Vendée-Montalvet par Astronomie Club Médocain et d'autres du côté d'Arcachon, au nord du bassin avec le club astronomie Bételgeuse, le vendredi 5 à Andernos-les-Bains, le samedi 6 à Lèche-Cap-Ferret, et au sud du bassin avec le club d'astronomie Cap-Sud, les soirées du vendredi 5 et du dimanche 7 à la Teste de Buch, et le samedi matin au Pila pour une observation du soleil. Alors on trouvera, comme je l'avais dit, hein, plus d'infos sur le site de l'AFA ou sur le site de chacun de ces clubs, hein, bien sûr.
Voilà, on repartagera. Et puis c'est vrai que quand je vous écoute avec attention, voilà, quand on parle de la Dune du Pilat, etc., voilà, on a une petite pensée, bien sûr, pour les habitants et puis tous les pompiers qui sont intervenus. Voilà, donc,
j'ai pensé, je me suis demandé si ça allait pas perturber ces animations, mais comme sur les sites des clubs, j'ai pas vu de mention qu'il y avait des difficultés,
voilà,
particulières. Donc je pense que ces animations ont lieu.
Vous faites bien, tant mieux si j'ai presque dire la nature pense ses droits. Voilà, c'est pas tout à fait l'expression juste. Je sais sait que par exemple à Florac, il y en a arrêté pour éviter d'aller se promener voilà, sur cette fameuse coulée verte qui réunit les villes du GPV, la Burte notamment. C'est pour ça, voilà, s'il y a un arrêté qui est prévu pour des raisons que l'on comprend. Voilà, donc Corinne, d'autres rendez-vous ?
Oui, bien sûr.
Parce que, évidemment, sur ce week-end. Et puis on repartagera également le site de la FA, bien sûr. Mais là, comme Michel l'a bien présenté, vous allez faire le mois.
Les prolongations des Nuits des Étoiles.
Voilà, donc d'autres rendez-vous.
Bah oui, on devait aller le 13 à Bourrèche, mais ça a été annulé par
l'organisateur. Si vous dites on devait,
mais
c'est qu'effectivement...
Je préfère avertir les gens qui s'étaient fixé cette date. Mais donc, bon, comme c'était quand même sur la pleine lune, ça aurait été un peu délicat. Bon, enfin, ils avaient insisté. On oublie. Le week-end suivant, le vendredi 19 août, par contre, là, c'est notre fief qui reçoit. Donc, Socats, le mémorial de la ferme de Richemont, là où nous observons très régulièrement toute l'année. Nous allons, pour l'occasion, fermer le site qui est public, juste le temps de la soirée, de 20h à minuit. Et là, bien sûr, nous ferons avec... Alors là, on est vraiment au milieu des champs de maïs, hein. Le ciel est très bon. Et donc, il y aura de l'observation, bien sûr, une expo d'astrophotographie prise du site, d'ailleurs, par les astronomes amateurs du club. Et nous ferons aussi deux conférences. Là, peut-être que je vais parler, j'ai pas encore fixé la mienne, mais je pense que je vais parler de la planète Saturne, puisque à cette époque, elle se lèvera un peu plus tôt, donc on pourra la voir plus tôt. Donc je pense que je vais partir sur la planète Saturne et Sandrine fera encore sa conférence sur la biographie d'une étoile dans le ciel d'été, puisqu'elle aura donné à Saint-Vivien, là elle va la donner à Socats. Le lendemain, nous serons à Fargues-Saint-Hilaire, donc au domaine de la fraise, en compagnie des animateurs de l'UFCV, où nous allons organiser une soirée. Là aussi, bon, par contre, l'UFCV va organiser un jeu autour de l'astronomie, il y aura un compteur, talentueux, hein, ce qui va vous compter les constellations à sa façon. Il y aura aussi nous, bien sûr, avec l'observation au télescope et à les lunettes. Et bien sûr, toujours le planétarium à ciel ouvert, que je ferai aussi à Socats, mais je le ferai également à l'UFCV, c'est tout à fait possible, le ciel est assez bon. Et donc, voilà, dès qu'il fait un peu nuit, hein, parce que là, il faut voir toutes les étoiles, et vous apprendrez que, par exemple, la casserole n'est pas la grande ours, mais juste une toute petite partie. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, ben, venez nous rejoindre, tout simplement.
Voilà, puis concernant Fargues, c'est vrai qu'on en parlait, Corinne, hors antenne, on aura Bruno Tauzin, le directeur de l'UFCV, parce que Fargues-Saint-Hilaire, voilà, l'UFCV, voilà, il y a plein d'animations pour les jeunes, il y a eu le festival, il y aura toute une série d'animations, stagiaires de films, puis ça, il y a ce rendez-vous du vin, voilà, si on peut s'organiser quelque chose. Corinne, c'est terminé ou sur le... C'est déjà pas mal, hein.
C'est déjà pas mal,
bon,
je trouve.
Tout à fait, bien sûr, parce que c'est vrai que vous êtes des passionnés comme Michel, mais ça se prépare, hein, comme la conférence que vous allez adapter. Oui, allez-y. Non,
alors,
on
oui,
n'est pas
juste,
parti, Corinne, Michel.
On n'est plus vraiment dans les Nuits des Étoiles, mais on a une petite animation qui pourrait vous intéresser. C'est à Tresse. À Tresse, qui est une animation qu'on n'a pas pu faire en juin à cause de la météo. Et là, elle va être reportée tout simplement au 2 septembre. C'est un vendredi.
Alors, qu'est-ce qui va se passer, ce 2 septembre?
Alors, ben là, ça va faire une petite Nuit des Étoiles, hein, avec de l'observation et du planétarium à ciel ouvert.
Donc là, c'est quoi?
C'est surtout dans le cadre
une association locale ou c'est
non,
dans
c'est
un
nous.
Cadre plus...
Ah, vous, oui. C'est nous, avec la commune.
Avec c'est vrai que j'ai compris que c'était vous, avec la commune. Oui, il n'y a pas de club
non,
astro,
non,
peut-être
c'est...
plus tard, un jour. Mais...
Peut-être. Bon. C'est la commune qui a initié cette rencontre annuelle, tout simplement depuis qu'elle a éteint ses lampadaires de minuit à 5h, si je ne m'abuse, ou de 23h à 5h, je ne sais plus. Mais enfin, elle est quand même... C'est une commune étoilée, une des premières communes en Gironde, qui a été étoilée et qui donc milite en faveur du retour de la nuit noire.
Bon, très bien. Donc, présent également. Oui, Michel, je vais vous redonner la parole. Il y a pas de souci. Donc, tout ce programme, d'ailleurs, Corinne, hein, sur le site ag33.fr.
Exactement.
Ça fait de l'info et c'est tant mieux, j'allais dire, dans des lieux, des villes différentes, des actions différentes. Alors, Michel, je ne sais pas si vous voulez compléter. Allez-y,
non,
on a encore quelques minutes. Il n'y a pas de souci.
C'est juste pour expliquer un petit peu, parce qu'il y a un peu du jargon de spécialiste de temps en temps. Les villes étoilées, c'est un label qui est proposé par l'ANPCEN, l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, c'est qui reconnaît la qualité du ciel d'une commune parce qu'elle fait des efforts particuliers sur ses dispositifs d'éclairage et en particulier, par exemple, en éteignant l'éclairage public pendant la nuit. Je rappelle d'ailleurs, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Internet un petit rappel à ce sujet-là, que ces derniers temps, comme l'économie d'énergie est revenue à la mode, On parle d'éteindre les enseignes des commerces ou les parkings la nuit, sauf que c'est une loi qui existe depuis 2018 et qui n'est généralement pas appliquée. Donc d'abord, que les préfets fassent appliquer la loi de 2018 et on aura déjà un ciel un petit peu moins pollué par tous les éclairages qui ne servent strictement à rien, parce qu'éclairer la nuit un parking où il n'y a personne, ça sert à rien à part à gaspiller de l'énergie et à bousiller, si je peux dire, la qualité du ciel.
J'aime les termes que vous employez, ouais. Michel. Faut vulgariser. Oui, puis à contrario, il y a peut-être des lieux pour lesquels c'est important d'avoir un éclairage.
Oui, non, mais il faut souvent, on met en avant les problèmes de sécurité pour l'éclairage de certains lieux la nuit. Il faut savoir que c'est complètement faux. 3/4 des cambriolages ont lieu en plein jour et seulement 1/4 la nuit. Donc c'est pas en éclairant les parkings ou les maisons qu'on empêche les cambriolages. Je reviens un peu sur mon mathématique là, du jargon de spécialiste, parce que je pense que peut-être pour les éditeurs, ce serait bien d'avoir une toute petite explication sur ce que Corinne entend par planétarium en ciel ouvert, et peut-être un petit mot sur la conférence de Sandrine, si j'ai bien retenu, parce que biographie des étoiles, c'est un petit peu abscon.
Bah, pas pour un lecteur, puisque la biographie est tout simplement raconter la vie de cette étoile.
Voilà. De la naissance à la mort.
Oui. Après, c'est une première. Hein. Elle n'a pas encore sorti, donc je ne l'ai pas vue. Je ne peux pas trop en parler. Mais le titre doit pouvoir se suffire à lui-même. Hein. Ça va être de sa naissance, effectivement, jusqu'à sa mort. Et sa vie, elle va en parler que d'une, hein, si j'ai bien compris. Donc, elle va en choisir une dans le triangle d'été, à mon avis, et faire tout son historique.
Et le planétarium, c'est d'expliquer les constellations, ah oui, voilà, qu'on voit dans le ciel.
J'ai un laser.
Au lieu d'avoir un faux planétarium, enfin, un vrai planétarium et qui projette un faux ciel, voilà, on peut le faire dans le vrai ciel.
Tout à fait, et c'est très intéressant parce que avec un laser, on pointe les étoiles qu'on veut montrer au public et on peut décrire ainsi une grande partie du ciel en commençant par l'hémisphère nord puisqu'on voit ces constellations pratiquement toute l'année. Et donc, effectivement, en partant de la Grande Ourse, on se dirige vers la Petite Ourse, on apprend à repérer l'étoile polaire, on devine et on découvre le dragon entre ces deux constellations, et ça, j'ai remarqué que ça étonnait beaucoup les gens. Ensuite, on fait un petit tour vers Cassiopée, et son mari Céphée, roi et reine d'Éthiopie, leur fille Andromède, dont tu as parlé, toute l'histoire mythologique associée avec Persée, qui est sous Cassiopée, et enfin, un petit tour sur Pégase, qui est né de la Gorgone Méduse, toujours lié à la même histoire entre Andromède et Persée. Et puis, pour finir, je vais vers le ciel, le triangle d'été, avec les trois constellations majeures, le cygne, la lyre et l'aigle. Et parfois, si j'ai un peu de temps et encore un peu de salive, je finis sur le Sagittaire, la fameuse théière. Personne ne la voit et quand je la décris, ça paraît évident. Et le scorpion géant qui a un jour été à l'origine de la mort d'Orion, le grand chasseur. Mais ça, ce sera une histoire du ciel d'hiver.
C'est bien amené, Corinne. Un tout dernier mot.
Rendez-vous le 31 août pour la prochaine chronique.
Voilà, prochaine chronique.
Puisqu'on va essayer de se recaler sur le dernier mercredi du mois qui était notre rendez-vous habituel, sauf que là, ça fait quelques mois qu'on s'était un petit peu décalé.
Donc, du coup, bien Michel, rendez-vous le mercredi, donc 31 août prochain. Encore merci, hein, bien sûr, puis Michel, et puis on rappellera Constellation des Galaxies, tout au pluriel.org, où on peut retrouver toutes les chroniques. Là, c'était la 89e. Corinne, merci également. On rappelle, vous êtes la présidente de Astronomie Gironde 33, G33, à G33.fr. Là également, je vais partager les sites. On partagera celui de l'AFA. Il faudra qu'on soit en liaison, bien sûr, avec certains. C'est pas qu'on soit chauvin, mais on aime bien mettre en avant la rive droite. Mais vous voyez, on peut parler des nuits des étoiles à l'échelle du département. Donc vraiment merci à tous les deux.